Sur la route de vos projets, épisode 3, le rêve de Thomas.
J'ai toujours rêvé d'aventure, de fouler le toit du monde, l'Everest.
Qu'il soit petit ou grand, simple ou démesuré, tout le monde porte un rêve en soi, un rêve souvent construit depuis l'enfance. Et puis à mesure que la vie défile, vient parfois le moment d'oser enfin le réaliser. Je suis Ariane Massenet et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Thomas. Thomas est un jeune pompier de 25 ans basé à Cherbourg. Il est né et a grandi à Granville, en Normandie, où ses parents vivent toujours. Il y a seulement 2 ans, Thomas est parti réaliser un rêve fou, gravir le sommet de l'Everest. Mais comment cet enfant de la mer, sans quasiment aucune expérience de la montagne, a-t-il pu accomplir cette épopée folle et périlleuse durant laquelle de nombreux alpinistes perdent chaque année la vie ? Je le retrouve à la gare de Granville, de bon matin, sur sa terre natale, au bord de la mer.
Salut l'équipe !
Salut Thomas !
Vous allez bien ?
Bien et toi ?
Ouais, super, content de vous accueillir.
C'est gentil d'être venu nous chercher à la gare.
Bah, moi je suis content de vous y contacter et puis que vous soyez venus. C'est toujours sympa de partager le projet, surtout que maintenant ça fait un peu plus d'un an.
Vous allez nous raconter tout ça ?
Ouais,
en
avec
détail.
Plaisir. Avec plaisir.
On va se tutoyer, non ?
On peut se tutoyer, moi je suis très très simple. Hein.
Ouais, très très simple. Bon bah moi aussi, alors ça tombe bien.
Bon, mais pour faire un peu le lien, on va peut-être se boire un petit café, c'est la meilleure méthode, hein, je pense.
Ariane. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien reçu ici.
Bon, on essaye quand même.
Bah oui, c'est ce que je vois.
Allez, c'est parti.
Allons-y.
Un petit café au soleil, ça va te réchauffer.
Mais en plus, il fait beau, c'est bien. On est où là exactement? Parce que toi, tu travailles à Cherbourg, hein, t'es pompier.
Ouais, c'est
à
ça.
À Cherbourg, t'as 25 ans. Là, on est
mais
où
là, on est dans ma ville natale, dans la ville de Granville.
Ah, bah bien sûr.
Ville d'aventure, puis bah là où j'ai grandi, où beaucoup de choses se sont mises en place. Donc je suis pompier depuis 6 ans maintenant. J'ai décidé de faire ce métier-là tout simplement parce que bah, mon père était pompier, donc j'ai découvert très très jeune. Et c'est un métier aussi qui m'a beaucoup appris sur la vie et la mort. Quand j'ai imaginé ce projet Everest, beaucoup de gens me disaient « mais tu es fou, tu t'en vas vers quelque chose de dangereux ». Mais à la fois, c'est quelque chose qui nous rend très vivants. Et quand on côtoie la vie et la mort au quotidien, bah, on a un petit peu ce sentiment-là qui a envie d'exister et d'être vivant, de vivre tout simplement.
Bon, tu vas nous raconter ce rêve complètement dingue qui n'a rien à voir avec la mer en fait.
Qui n'a rien à voir avec la mer, mais à la fois qui a plein de points en commun avec la mer. Un grand villet qui vit au niveau de la mer, qui s'en va faire l'ascension de l'Everest. C'est complètement irréel, mais pourtant ça a été fait quoi. Donc,
Et pourtant c'est ta vie.
Et pourtant c'est ma vie. Ouais. Et puis maintenant il n'y a plus de maternité à Granville, donc je suis l'un des derniers grands villets. Ça c'est le côté un peu pépite de l'histoire.
Ouais, la petite anecdote.
Ouais, tout à fait. Et c'est une ville où je me sens bien en fait.
Sont tes racines?
Ouais, sont mes racines, ça fait. Ouais. Le côté maritime, avec tous les événements que j'ai pu vivre ici, je me sens bien, c'est chez moi. On a tous un endroit où on se sent en sécurité, où rien ne peut nous atteindre. Et moi c'est ici à Granville, chez mes parents. Quoi.
Tu nous emmènes chez des parents?
Ah bah avec plaisir.
On va rencontrer ta mère?
La porte est grande ouverte.
Ah super, allez on y va. Quoi, Grandvillois, Grandvillet,
Grandvillet, Grandvillaise.
Grandvillet, Grandvillaise.
Ça fait ou Grandvillain, ça dépend à quel stade à quel stade tu rencontres les gens.
Ouais. Allez, juste en... Enfin moi, il va falloir quand même qu'on m'explique comment un garçon qui vit au bord de la mer se retrouve sur un sommet de l'Himalaya au Népal. Ça, il va falloir qu'on m'explique.
Bah ça, je vais essayer de t'expliquer, mais je sais pas si je vais réussir à te convaincre.
Bah c'est pas ça, c'est que je vais d'abord en parler à ta mère. Je voudrais avoir la vie de ta mère.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Valérie, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
Mettez-vous à l'aise.
Oh, c'est bien. Merci de nous accueillir, en tout cas.
Bah, c'est un plaisir. Vous voulez peut-être passer au salon avec un petit café?
Ah oui, super. Allez. Ça, c'est gentil.
Allez, au salon.
Les grands villets sont très accueillants. Alors, Valérie, on discutait un petit peu avec Thomas. En arrivant, il a eu la gentillesse de venir nous chercher à la gare. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quel enfant il était, Thomas?
Alors, c'était un enfant plutôt effacé, très réservé.
Bon,
il a plutôt un frère qui est plutôt speed. Donc, s'il y a quelques années, on m'aurait dit lequel des deux aurait fait un exploit, si je puis dire, j'aurais plutôt dit son frère.
Ah ouais?
Voilà. Et un jour, il nous a dit, je vais gravir le Mont Blanc.
Oui. Mais comme ça, c'est sorti de nulle part.
Comme ça, voilà. Mais en fait, quelques mois après, il a vraiment fait le Mont Blanc. Et quand après, il a dit l'Everest, bon, là, j'y ai vraiment pas cru, quoi.
Vous, dans votre famille, vous êtes des voyageurs?
Pas du tout.
Des aventuriers?
Pas du tout.
Des explorateurs?
Pas du tout.
D'accord. Bon, donc, il y a un homme étrange qui s'appelle Thomas qui part faire le Mont Blanc. C'est-à-dire, commence par le Mont Blanc, qui est déjà un truc que des gens font au bout de plusieurs années d'entraînement, où ça devient le Graal. Bon, et puis l'Everest, ils y pensent même pas. Mais moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait.
J'ai échelonné, en fait. Le Mont Blanc, c'était une première étape, mais dans ma tête, ça trottait déjà. Mm-hmm. En fait, les gens, des fois, voient le projet comme une course à l'ego. ou comme quelque chose de complètement fou. Mais derrière, il y a toute une intelligence, c'était aussi de ne pas brûler les étapes. Donc de commencer à faire de la montagne dans les Alpes, d'apprendre à cramponner, à utiliser le matériel. Et surtout me connaître moi-même en montagne, parce qu'on est quand même en altitude. Et du coup, après, j'ai été au Népal, et tout ça, c'était échelonné, en fait. C'était fait intelligemment, dans le sens où je me dis, s'il y a une étape qui ne marche pas, je m'arrêterai là.
La peur, c'est quelque chose qui vous a habité, Valérie ?
Bien sûr, parce que la montagne, pour moi, c'est quelque chose de gigantesque, d'inconnu, je ne suis pas du tout de la montagne. Si, peur, bien sûr. Quand il est parti, j'avais peur qu'il revienne, mais malheureusement, entre quatre planches, quoi.
Ouais, ouais.
J'essayais un peu de rassurer, même si derrière, dans ma tête, j'avais moi-même peur. Fallait que je les écoute à la fois, mais à la fois, fallait que je trouve les bons arguments.
Et que tu t'écoutes toi aussi.
Et que je m'écoute moi aussi. Fallait pas que ce soit un frein, fallait plutôt que ce soit une force.
Donc en fait, le point de départ de ce rêve fou qu'est de monter l'Everest, il est d'abord gravir un sommet au Népal pour te prouver que t'es capable de le faire.
La première étape, c'était d'abord d'aller toucher un peu l'altitude, les sommets dans l'Himalaya. Et j'avais choisi la Madablam. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Dendy...
Dendy qui est ton Sherpa.
Dendy qui est mon pote, en fait. C'est mon frère. Ça sera mon Sherpa pour le reste de mes aventures. Depuis qu'on se connaissait, ça faisait 1 an et demi qu'on se côtoyait. Il m'a toujours vendu le projet Everest. Il m'a dit oui, on ira. Mais il m'a jamais cru, en fait. Il m'a jamais cru. Quand on est descendu de ce sommet du Hamadablam, il m'a dit, c'est bon Thomas, tu pourras aller au sommet de l'Everest.
Donc là, ça y est, ton projet se dessine. C'est maintenant gravir l'Everest. Et tu voulais nous emmener sur les docks, enfin sur le front de mer, c'est ça, comme ça qu'on dit?
Ouais, c'est un endroit où j'allais souvent parce que c'est un bel endroit pour s'évader. J'aime bien aller là-bas sur le front de mer et je pense que c'est un joli endroit que vous allez découvrir.
Bah super, bah on y va, c'est ton côté explorateur qui parle.
C'est le côté explorateur.
Bah merci Valérie.
Ouais, merci maman.
Bon retour.
Merci de votre accueil.
Vous allez revenir à Granville,
C'est sûr, je pense, il y a de fortes chances. Merci beaucoup Valérie.
De rien, bonne journée.
À bientôt.
Au revoir.
Tu vois, le front de mer, c'est le port de Granville, là. T'as vu, en passant, on a vu le Marité, là. Un très beau bateau.
Très beau bateau, ouais. Un de ces bateaux qui allait pêcher la morue, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et ça évoque un petit peu l'aventure aussi, parce que ça donne envie d'embarquer et de voyager, quoi.
C'est quand même magnifique, ici.
C'est un bel endroit. C'est magique, hein.
Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ces grands espaces, cette mer?
Bah, moi, ça m'évoque surtout le départ. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
Oui, hein. C'est vrai qu'on a envie de prendre un bateau
là,
et de partir.
D'embarquer, bon là la mer est basse donc ça va être difficile. Mais quand la mer est haute et qu'on voit tous ces bateaux, tous ces gens qui débarquent, qui embarquent, ça donne envie de partir et se mettre en marche, faire des actions. Donc c'est assez symbolique. Ouais.
Tu viens souvent ici?
Quand j'étais jeune, je venais souvent ouais, en vélo ici avec les copains. On venait faire la pêche, tout ça, c'était un très beau spot de souvenir.
Tes copains justement, avec qui tu venais en vélo quand t'avais 14-15 ans ou tu ne pensais même pas encore à l'Everest, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont réagi quand tu leur as dit que... aller partir en montagne, gravir des sommets.
Ça, c'est la force des copains. Ils peuvent avoir peur, ils peuvent ne pas avoir confiance en toi. Ils vont pas te le dire spécialement comme le font les parents. Ils vont plutôt t'encourager parce qu'ils trouvent ça trop chouette, en fait. Ça, c'est la force des copains.
Donc là, on est au pied de la ville fortifiée de Granville. On est devant des bateaux. Ça ouvre sur la mer, sur la tempête qui va bientôt nous tomber sur le coin de la figure.
Qui va bientôt nous tomber dessus.
À mon avis, c'est vrai que ça évoque le voyage. En même temps, quand même... une certaine inquiétude, des départs comme ça, des aventures comme ça très fortes, t'as dû partir avec une petite appréhension, non?
Ouais, mais le principe de l'émotion, c'est de nous rendre vivants. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, c'est quelqu'un qui est mort. Hein. Mais non, je pense que j'étais rempli d'émotions et c'est ce qui me rendait vivant. Quoi. Là, je me sentais vivant. J'étais en train d'avancer vers le sommet de mon rêve, donc je me sentais vivant et enthousiaste. Quoi.
C'est un bateau de pêche, ça?
C'est un bateau de pêche, ça, ouais. Ça, c'est un chalutier.
Mais regarde, l'hélice, elle est aussi grande que moi. On va se mettre sur le banc.
Ouais, on se met à la vue du vent, là-bas.
Il y a un petit banc derrière le blocos, on se met là.
On va se mettre face à la mer, là.
Face à la mer pour parler de l'Everest.
Ouais, c'est assez ironique, hein.
Oui, c'est ça. Tu as fait ce premier sommet au Népal dont on a parlé tout à l'heure, mais tout ça a été en prémisse à cette expédition où tu allais gravir l'Everest. Mais pour gravir l'Everest, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que tu avais besoin de préparer ton voyage.
Ça, c'était un double défi. Parce qu'il y avait ce défi sportif, mais il y avait aussi cet enjeu financier qui était une très, très grosse pression.
Ça coûte combien, sans indiscrétion, de faire une expédition comme ça?
L'expédition en elle-même, un peu plus de 35 000 $.
Ah oui, quand même.
Mais le projet en soi que j'ai fait, avec le voyage préparatoire qu'on a évoqué sur la Madablam, on est autour des 50 000.
Donc après un an et demi de recherche, de financement, d'aide, etc., ça y est, c'est le grand jour.
C'est le grand jour et on est totalement excité. Par contre, quand on arrive au Népal, plus du tout. Plus du tout, parce qu'en fait, il y a quelques jours qui vont se faire à trekker, au camp de base, à attendre. Donc en fait, l'excitation, elle retombe. Tant qu'on n'a pas fait les premiers pas sur la mer de glace et sur cette ascension de l'Everest, on ne retrouve pas cette excitation.
Et puis au bout d'un mois, ça y est, c'est le départ.
Et au bout d'un mois, quand on est au camp de base et qu'on met les crampons quasiment tous les jours, et là on se dit ça y est, on y est, quoi. Et là on vit le truc à fond.
Et comment s'est passée l'ascension alors ?
Quand on fait le push final, on est sur 4 jours et ça se passe très très bien en premier lieu parce que la météo est plutôt bonne, il n'y a pas trop de vent. Et là, ça y est, on croise les premières personnes qui descendent, le visage brûlé, certaines personnes qui descendent entre 4 cordes. Donc ce sont des gens qui sont soit en train de décéder ou qui sont déjà morts.
Il y a eu des morts ?
Il y a eu 11 morts cette année-là quand même.
Et ça, du coup, ça te fait pas un peu flipper ?
Je pense que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet d'appréhender un petit peu ce côté morbide.
Et parce que tu la côtoies par ton métier, la mort.
Ouais, c'est ça en fait. Et je me disais juste, bon bah, fais abstraction de ça et continue à tracer ton petit bonhomme de chemin.
Tu t'es blindé en fait.
Ouais, c'est ça. Inconsciemment, je pense qu'on s'est blindé. Et puis, on est recentré sur soi et son camarade et rien d'autre.
C'est pas une fois que t'es en haut que t'as dit ça y est, je suis arrivé en haut, que c'est terminé.
Moi, pour moi, une fois arrivé au sommet de l'Everest, le début de la fin commençait quoi. C'est-à-dire qu'on est très fatigué, assoiffé, mort de faim, on est en hypoxie sévère, on commence à se rendre compte qu'on a des gestes réflexes et qu'on n'est plus trop en train de contrôler des fois ce qu'on fait. Donc là, c'est une phase assez dangereuse. Donc, une fois arrivé là-haut, je contemple, c'est joli, je prends le temps de faire des photos. Je suis heureux forcément au fond de moi, mais je suis pas encore convaincu que c'est fini quoi.
En fait, t'as fait la moitié de l'expédition. C'est pas l'arrivée au sommet qui est l'expédition.
Arriver au sommet, c'est pas fini quoi. Mm. Une fois qu'on a amorcé la descente, j'étais très 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 vigilant. Et malheureusement, la météo s'est couverte. Là, je me suis dit, c'est très risqué, puis ça peut être une catastrophe. Et c'est là où il faut faire attention, justement dans cet univers de la montagne, qui est un endroit que je découvre encore à l'heure actuelle. Hein. Parce que je suis pas un professionnel de la montagne, je suis encore un novice, un amateur. Et c'est là où il faut prendre une décision, et on y va, il faut rentrer, parce que là, ça va nous tomber dessus. Donc ça permet de se construire, et je pense que c'est ce qu'on fait au quotidien. On prend des décisions, on fait des actes, on prend des décisions.
Et donc cette expérience, cette expédition pour gravir l'Everest, tu as ramené toute cette expérience à Granville et t'en as fait profiter les Granvillais.
Quand les gens te donnent, à un moment donné, moi, enfin, il faut qu'il y ait un retour, c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi. Donc on en a fait des conférences. Donc j'avais envie de raconter ce qui s'est passé là-bas, tout ce que j'ai pu entendre, voir, découvrir. Quand j'explique aux enfants, je pense l'avoir fait le plus humblement possible. Et après, surtout, j'ai essayé de donner envie aux gens de partir faire l'Everest à eux.
Mais quand on est novice et qu'on commence par l'Everest, on se dit c'est quoi la marche d'après ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Quel est le prochain rêve ?
Mon prochain rêve, ça serait d'aller sur la banquise. J'aimerais faire du ski en Antarctique, au Groenland. Pour ce côté aventurier, ce côté dépassement de soi, pour le coup, c'est pas prendre de l'altitude, mais c'est prendre de la fraîchitude.
Oui.
J'ai été bercé par Jean-Louis Etienne, Mike Horn, qui est un aventurier des temps modernes. J'ai lu aussi beaucoup du Mont-Durville, qui est un Normand, hein, qui est un explorateur normand. Et du coup, ouais, j'aimerais un jour faire du ski sur cette banquise. Mais le projet est déjà lancé dans ma tête, donc je pense que d'ici quelques temps, je me mettrai en marche et je partirai.
Tu leur as dit à tes parents ? Tu l'as dit à ta mère
ouais,
que
mais,
tu voulais
faire
ça ?
Mes parents m'ont forcément posé la question. Bah, ils grandissent de cette expérience, ils comprennent que finalement, bah, notre fils, il est heureux, il est conquis par ce qu'il a fait. La meilleure manière de vivre avec, c'est de l'accepter, quoi. Donc... Bien sûr, il y aura toujours de la peur, il y aura toujours de la retenue, mais au final, c'est des émotions par lesquelles on passe et c'est ce qui me rend heureux au quotidien.
Ouais.
Les gens qui nous écoutent vont des fois chercher des réponses à pourquoi je réalise pas mon rêve. Bah, moi, je pense que la meilleure réponse, c'est faire de l'action, se mettre en marche, essayer, parce que bah, j'ai eu des moments d'échec. Hein. On parle beaucoup de réussite dans notre échange, mais il y a eu beaucoup de moments d'échec. Hein. Et de doute et de remise en question. Et
souvent, les échecs, c'est ce qui te fait avancer aussi.
Et c'est là où on grandit, quoi.
Ouais, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et c'est comme ça qu'on monte les marches.
Faut pas s'en cacher, quoi, c'est pour bondir. Mm. C'est clairement ce qui nous fait avancer.
Bon, bah écoute, j'étais très content de vous rencontrer.
Mais moi aussi, merci beaucoup, Thomas.
Salut, Ariane.
On s'embrasse pas, mais.
Ciao, ciao.
C'est comme si.
À bientôt.
À bientôt. Ciao, ciao.
J'ai toujours rêvé d'aventure, de fouler le toit du monde, l'Everest. Et ce rêve, je l'ai réalisé.